sur Radio Campus 106,6 FM et cette compagnie dont nous allons parler dans quelques instants, elle s'appelle Cariatide. Quant à la musique que vous entendez maintenant, elle fait partie du nouveau spectacle chorégraphié par Cyril Vialon qui est présent et qui va présenter donc sa création très prochainement au Grand Bleu, et ce sera Françoise Lambert qui nous parlera un petit peu de cette programmation et de la place de ce travail dans la programmation du Grand Bleu. Cyril, bonjour.
Bonjour René.
Donc on s'est vu hier pour une petite présentation de ce spectacle, situation sur scène,
répétition publique,
où donc on a pu un petit peu saisir le sens de ton travail chorégraphique. Donc un spectacle qui s'intitule
Nuit.
Alors, N apostrophe.
Le chiffre 8,
oui. Et 8, d'accord.
Oui, la nuit étant, d'après une émission de radio sur France Culture, où des philosophes discutaient entre eux, la nuit étant la négation du chiffre 8. Quand on place le N de la négation devant le chiffre 8, on obtient la nuit. En anglais, eight night. En allemand, art nacht. En anglais, je l'ai déjà dit. En italien, otto la notte. Et en espagnol, ocho la noche.
Donc un spectacle autour de cette idée que tu viens d'écrire, mais pas seulement, aussi deux autres éléments qui entrent en jeu, j'allais dire.
Bah, c'est pas vraiment que c'est des idées, c'est plus des... comme si c'était des sédiments qui vont me permettre de construire une pièce qui va aboutir à nuit sur le thème du manque, de l'absence, du deuil, comment on fait pour avancer dans la vie quand la personne, la chose que vous aimez le plus n'est plus là, comment vous réagissez. Et donc il y avait cette émission, il y a eu les films d'Hitchcock, les compositions de Bernard Herrmann qui me faisaient écho à La nuit transfigurée de Schoenberg, et puis drôle de mélange, mais Star Academy sur un groupe qui existent, et puis les nouveaux jeux du cirque où on élimine les personnes les unes après les autres. Dans les films d'Hitchcock, on tue quelqu'un, on cherche le coupable et on arrive à une solution. Dans ces jeux-là, c'est pareil, il y a un groupe et puis petit à petit, on arrive vers un élu. Et le spectacle se passera en deux parties. Il y a une première composition, Nuit, écrite avec le chiffre 8. Qui est dansée par 8 danseurs. Une pause. 8 spectateurs sont choisis complètement au hasard, classe par ordre de préférence, ou en tout cas comment tel danseur les a plus touchés qu'un autre. Et d'après ce classement arbitraire, on élimine toutes les 4 minutes 30 un danseur, et les autres danseurs doivent absolument continuer leur partition chorégraphique tout en improvisant ou en faisant de la composition instantanée sur la deuxième partie. Ça change donc radicalement le sens, et aussi bien le public a ce manque-là et aussi bien les interprètes le manque de leur partenaire.
Quant à l'ambiance donc de ce spectacle, elle est un peu hitchcockienne.
Ouais, elle est complètement hitchcockienne. On s'est inspiré de 3 films d'Hitchcock. C'est Vertigo, Pas de printemps pour Marnie et La mort aux trousses. Chaque danseur avait le film depuis 2-3 mois avant le début des répétitions, devait essayer de regarder ce film-là sans le son, s'inspirer des mouvements, s'inspirer d'une couleur, s'inspirer d'une scène, s'inspirer d'une névrose, et ensuite travailler et broder dessus.
Alors, autre élément important, la musique, donc La nuit transfigurée, Schoenberg, mais là, ce qu'on entend actuellement qui fait partie de la bande son.
Oui, c'est ça, c'est que la première partie, on la joue sur La nuit transfigurée de Schoenberg, une œuvre, une symphonie écrite en 1899. Et dans la deuxième partie, comme les danseurs vont être en composition instantanée, on trouvait dommage d'avoir une bande-son qui soit écrite et qui soit toujours la même. Donc on a un DJ, Benjamin Collier, qui va composer la musique en live avec ordinateur, des samples de La nuit transfigurée. Donc là, on a des samples de La nuit transfigurée. On n'a pas vraiment l'impression d'être dans une symphonie avec des beats, des rythmes beaucoup plus actuels. La musique est composée instantanément aussi. Qu'est-ce que j'ai dit la musique, non, les lumières, pardon. Les lumières sont composées instantanément parce qu'il faut suivre le danseur. On va pas s'amuser à éclairer le côté gauche de la scène s'il y a personne qui danse dessus.
On ne sait pas forcément qui restera, donc qui interviendra.
Personne. Personne ne le sait, à part moi qui ramasse les copies des 8 spectateurs jurés, qui fait vite la moyenne des points, qui va marquer ça sur un tableau. J'ai 12 minutes à peine pour calculer tout ça. Les danseurs ne le savent pas. Quand ils sont plus que deux sur scène à la fin, quand je m'avance sur scène pour venir chercher le septième éliminé, les deux se regardent l'un l'autre et puis il y en a un des deux qui part et l'autre a la chance. Est-ce que c'est la chance? J'en sais rien. En tout cas, il a 5 minutes d'expression libre. Il fait ce qu'il veut de ces 5 minutes-là. C'est ce qu'il a gagné pour avoir un moment privilégié seul avec le public.
C'est vu comme un jeu ou comme une critique?
Peut-être comme une critique. Les danseurs s'amusent avec. Au début, ils étaient très tristes. Ils avaient très peur de partir tout de suite. Ensuite, ils étaient très contents de partir tout de suite parce que c'est très compliqué de composer instantanément une partition chorégraphique. Et puis maintenant, ils le prennent beaucoup plus comme un jeu. Ils sont frustrés quand ils sortent très vite. Les trois premiers, c'est pas très rigolo. Le troisième part à 13 minutes 30, donc sur 32 minutes, c'est pas énorme.
Alors c'est vrai que ce spectacle ne peut prendre sa dimension qu'avec un public, j'allais dire, et une série de représentations où le jeu se cale, en fait, même si les règles sont identiques, mais les résultats changent d'un jour à l'autre. Néanmoins, il y a quand même une application de la théorie que tu viens de signaler à la mise en pratique, on va s'apercevoir de choses qu'on n'imagine peut-être même pas maintenant.
Oui, nous on en est à plusieurs éliminations comme ça qu'on fait au hasard et c'est jamais la même signification. Il y a des fois, il y a certains soirs c'est drôle, il y a d'autres soirs c'est beaucoup plus pathétique, au contraire. Ça dépend de la partition de chacun. Si Amélia qui est la morte, la tuée, le cadavre autopsié de cette pièce reste plus longtemps, c'est beaucoup moins léger que si Marie, par exemple, qui est cette espèce de petite poupée froide, blonde, chère aux héroïnes hitchcockiennes, reste là, la pièce a quelque chose de plus drôle, de plus léger.
Mais d'un point de vue des danseurs, tu leur proposes d'essayer de résister, de rester le plus longtemps sur scène, donc avec quelque part un jeu de séduction, ou bien ils sont libres d'une soirée à l'autre de choisir s'ils veulent provoquer pour partir plus tôt ou rester jusqu'à la fin? Comment ça se passe?
Non, ça serait trop compliqué. Je voulais vraiment que la première partie, nuit, avec le chiffre 8, soit quelque chose de très ciselé, vraiment une partition faite au tout petit ciseau de la vraie dentelle, pour qu'ensuite ils puissent s'appuyer dans la deuxième partie, quand les partenaires ne sont plus là, sur quelque chose de concret, de solide, et qu'ils puissent s'amuser autour de ça, plutôt qu'une partition plus vague dans la première partie. Donc la première partie est vraiment identique à chaque fois. Le moindre regard, la moindre intention est voulu valider ensemble entre les danseurs et moi.
Donc le rôle du public, malgré tout, il va être déterminant sur l'organisation de la deuxième partie.
Oui, totalement. Et puis ça va dépendre des gens choisis, s'ils ont plus envie de quelqu'un qui leur semble très, très névrosé comme personnage, très, très violent, ou s'ils ont plus envie, au contraire, d'une danseuse beaucoup plus voluptueuse.
Mmh. Alors, inutile de dire que dans la compagnie des Cariatides, les danseurs sont des danseurs, j'allais dire, de grand talent. Au départ déjà.
Oui, vraiment. L'équipe, j'en suis très très fier. Mais je l'expliquais hier, je trouve qu'un boulanger, le moins qu'on puisse lui demander, c'est de faire du bon pain. Un danseur, le moins qu'on puisse lui demander, c'est de bien savoir danser. Ça, c'est une base. Ensuite, il faut que ça soit des personnes qui aient quelque chose à dire, qui aient quelque chose de fort en eux. Peut-être même une blessure, une fêlure.
Alors justement, quand tu as fait le choix de ces danseurs, au-delà de l'aspect des capacités qu'ils ont à bien danser ou danser de façon très précise et peut-être de répondre à tes demandes, tes exigences. Hein. Ces danseurs, tu les as choisis très différents pour justement que le public ait un choix très personnel peut-être?
Ouais, j'ai un peu... Moi, j'ai pas la télé, mais je me suis loué une télé l'année dernière. J'ai un énorme document que j'ai fait moi-même sur Star Academy 5, où Magali a gagné. J'ai vraiment tout suivi, les primes, les quotidiennes. J'ai chronométré même le temps de chaque plan. Le plus long plan dure à peine 5 secondes. C'est vraiment un mitraillage. J'ai tout. Et donc, même là-dessus, je me suis amusé, moi aussi, à avoir un casting le plus hétéroclite possible.
Ce qui soit étonnant, c'est que tu sois encore en bonne santé, apparemment.
J'avais beaucoup de mal à m'endormir après les premiers primes. Mais 2-3 premiers primes, j'avais énormément de mal à m'endormir. Et bizarrement, la pub me calmait parce que ça va tellement à un rythme hallucinant, c'est tellement violent. La musique, les hurlements, l'hystérie, cette espèce de faux suspense, de fausse prise sur un jeu du cirque moderne, que oui, j'arrivais le soir et j'avais cette espèce de musique du générique qui revenait dans ma tête, j'avais les feux d'artifice, les hurlements du public qui étaient là. Donc je ne sais pas si j'étais si en bonne santé. Mm-hmm. Et puis d'ailleurs, j'aimerais demander, puisque Françoise Alombert est là, si je pouvais me faire rembourser mon SMS que j'ai envoyé pour Ellie l'année dernière. Mm-hmm. Parce que j'étais avec quelqu'un et qui me disait c'est dégueulasse, t'es en train d'analyser tout ça, tu regardes toutes ces règles-là, t'en as un regard absolument pas critique, j'étais vraiment dans du constat et tu ne vas pas jusqu'au bout, tu n'as pas encore voté. Ça m'a fait mal au cœur, j'allais dire autre chose, mais ça m'a vraiment fait mal au cœur d'envoyer 0,50 centimes à TF1 parce que c'est une machine de guerre terriblement intelligente. Moi, je me suis pris au jeu, j'étais presque ému quand le copain d'Elie est venu la demander en mariage sur le plateau, ce qui est complètement aberrant. Mais c'est une machine de guerre formidable pour engranger un pognon phénoménal.
Donc toi, en fait, tu as décortiqué, on peut dire,
complètement
l'essence, enfin la structure de cette émission.
Mais donc, aussi mais aussi d'Hitchcock, hein, mais aussi la Nuit Transfigurée, ouais, que je connais par cœur.
Bien sûr. Ouais. Mais au-delà de ça, quand on regarde la Starac, ce qui peut arriver, hein, je veux dire,
oui,
par
oui,
hasard,
tout, hein. Personne le dit, par contre. Ça, personne le dit, mais bizarrement, tout le monde connaît.
On se rend pas compte du rythme dont tu parles, c'est-à-dire du calibrage des séquences. Toi, tu as effectivement chronométré qu'entre telle ou telle disparition, il y a...
Dans ma pièce,
ouais.
Oui, c'est 4 minutes 30. Et au début, j'ai donné un rythme très, très frénétique à la pièce. Pour le public, c'est un peu comme assister à un match de Roland-Garros. On tourne la tête de gauche à droite parce qu'on essaye de tout voir, parce que je voulais essayer de reproduire aussi cette espèce de frénésie et puis d'angoisse qu'il peut y avoir aussi dans les films d'Hitchcock, pas seulement dans les Starac 5, et puis de l'angoisse de perdre quelqu'un. Je voulais mettre le public comme ça dans une... peut-être une hystérie un peu, comme ça, à vouloir tout voir. Et puis petit à petit, la pièce prend son temps...
Alors, en même temps, les films d'Hitchcock, en termes d'ambiance, c'est pas vraiment l'ambiance Starac non plus. Donc,
pas du tout. Pas du tout, et c'est même des longs plans. On est plus sur du suspense, sur une angoisse. Et comme la pièce est sur le manque, l'absence, le deuil, en éliminant certains danseurs, je me disais qu'avec la première partition, travailler beaucoup plus sur Hitchcock. Une fois que les autres disparaîtront, cette espèce de tension, d'angoisse qui sera mise dans les états de corps des danseurs pourrait être significative et symbolique par rapport aux personnes manquantes. Hier, une spectatrice me demandait mais pourquoi les danseurs chutent autant, et on ne doit pas tout le temps essayer de réfléchir à ce que signifie un geste quand on va avoir de la danse, on doit se laisser plus porter, ressentir des choses. Mais quand on perd quelqu'un, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais tout s'écroule. On n'a plus de force, on n'arrive plus à avancer, et en même temps on doit se relever et continuer. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une vraie répétition de chute de corps. Et comme on s'est beaucoup inspiré de Vertigo, où il y a trois fois une chute d'un clocher et puis d'un toit, donc c'était important que les chutes de corps soient là.
Mais en même temps, chaque disparition, chaque fin de séquence, c'est aussi une chute.
Tout à fait.
Donc
tout
on
à fait.
Est dans la logique de chute.
Et on regarde autre chose, on se dit « Ah, merde, ceci, il a disparu, pourquoi il a été éliminé ?» Et puis, ben, une minute après, boum, on est emmené dans une autre histoire parce que le plateau raconte autre chose.
Rassure-moi, au final, tout le monde revient saluer.
Au début, il n'en était pas question, et puis petit à petit, il faut dépasser ces règles-là. Moi, je suis pas les inconnus pour faire une critique de la télé. Mm-hmm. Je suis juste un chorégraphe qui constate des choses et puis qui les utilise ensuite. Mais c'était vraiment pas une satire, donc ouais, tout le monde revient s'allumer. Il y a personne qui gagne plus d'argent. Les cachets sont pas plus gros. La seule chose, c'est vraiment que le danseur qui a été élu comme étant peut-être le plus touchant à 4 minutes 30 à peu près où il peut s'exprimer, et je n'ai aucun regard là-dessus. Je ne fais aucune note, c'est son solo, c'est son moment, il a transpiré pendant une heure et des brouettes. Voilà.
Voilà. Françoise Lambert, donc du Grand Bleu, tu peux nous dire un petit peu dans ce projet de Cyril Vialon, bien sûr qu'on parle de Starac et qu'on voit le public qui vient régulièrement au Grand Bleu, on imagine que l'âge est quelque chose qui peut correspondre aussi à une attente d'un spectacle comme ça, et que les clés de jeu, enfin les règles du jeu peuvent de prime abord séduire, mais quand on voit le spectacle comme je l'ai vu hier, on n'est pas forcément dans un spectacle de prime abord séduisant, mais plus, comme tu disais, à la fois inquiétant, Cyril, et aussi avec des règles plus dures, enfin visiblement dures, alors que dans la Starac, c'est pas ressenti forcément comme dur, même si ça l'est dans le fond.
Oui, tout à fait, c'est une chose dont nous sommes tout à fait conscients. On a même prévenu individuellement les groupes qui venaient, parce que ce que nous souhaitons toujours au Grand Bleu, c'est ne pas du tout intervenir sur les choix des artistes, mais bien prévenir les spectateurs, qu'il n'y ait pas un décalage entre ce qu'ils attendent et puis ce qu'ils voient. Mmh. Et dans le cas d'une création, c'est toujours un petit peu délicat, parce que souvent, il y a un décalage qui se produit entre ce qui était prévu au départ et puis ce qu'on trouve à l'arrivée. Mais en même temps, donc je pense qu'il faut qu'ils sachent bien que ça va pas être une satire comique de Star Academy, puisque bon, Star Academy, c'est le concept, la conception formelle, si je puis dire, mais ça n'est pas du tout le contenu de la pièce de Cyril. En revanche, nous, une chose qu'on a constatée, c'est que les adolescents, ils cherchent des choses fortes au théâtre et pas du tout forcément, même au contraire, pas des choses distractives. Et quand on parle après quelques années à des jeunes qui ont suivi pas mal de spectacles de théâtre, on s'aperçoit que les spectacles qui les ont le plus marqués n'étaient pas forcément ceux qui étaient le plus séduisants d'abord, le plus facile d'accès, mais que c'était souvent des choses assez dur parce que ça amène pour eux une réflexion à laquelle ils ne s'attendaient pas forcément en entrant dans la salle.
Alors Cyril est quelqu'un de très connu au Grand Bleu notamment, puisque toi tu l'accueilles quand même.
Il est dans son deuxième contrat d'association, c'est-à-dire que là on est paxé quasiment.
Ben oui. Et donc ce public qui revoit régulièrement Cyril dans des choses très différentes, décalées,
oui,
on va dire parfois, est-ce qu'il a la conscience que c'est le travail d'une même personne?
Mais je pense qu'il a plusieurs publics, Cyril, au Grand Bleu. Mmh. Parce que quand il a fait des pièces comme Les Petits Riens ou comme Je cacherai mes peurs sous le tapis, c'est vrai que ça s'adressait à des enfants assez jeunes. Et même entre les deux pièces, comme il s'est écoulé 3 ans, c'était pas forcément les mêmes spectateurs qui ont la même génération.
Mmh. Toi, tu as déjà les enfants qui viennent.
Comment ?
Tu as déjà les enfants de tes premiers spectateurs.
On n'a pas encore tout à fait les enfants, mais ça va venir dans peu, hein, c'est clair. Donc, en fait, il a plusieurs publics. Mmh. Et je suis pas sûre. Enfin, il y a un petit noyau qui a tout vu, mais en même temps, il a un public très large, parce que ça va des spécialistes un peu de danse contemporaine aux enfants de maternelle. Qui ne viendront évidemment pas voir Nuit.
Alors, un spectacle comme Nuit, par rapport au public, ça se travaille, l'approche du public
Mais il y a déjà une chose qui nous permet de travailler beaucoup l'approche du public, c'est tout le site internet et la possibilité pour le public de voir en direct tous les jours les danseurs en répétition. Donc je veux dire que là, ils ont eu quand même une médiation culturelle, si je puis dire, tout à fait exceptionnelle sur ce que c'est que la création d'un spectacle de danse, comment ça se construit, puisqu'il était possible de se connecter tous les jours de 16 16 à 19h, sans compter le confessionnal le samedi, etc. Donc ça, c'est déjà un atout considérable. On a fait plusieurs, donc il y avait une répétition publique hier qui permettait à ceux qui allaient venir voir le spectacle de s'en faire une idée. On a fait aussi des rencontres destinées aux enseignants, donc dans le cadre des répétitions. Il y a eu aussi un stage d'enseignants en éducation physique qui a assisté à un temps de répétition pour voir un petit peu ce que c'était que la conception de la danse par rapport au sport.
Ah ben j'en profite peut-être qu'il écoute. Bonjour Stéphane.
Et puis, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Et en plus, Cyril aussi pète sa personne, puisque ceux qui ont été les meilleurs élèves, c'est-à-dire qui ont bien suivi tout ce qu'on leur proposait, eh bien, il va dans leur classe pour leur parler de la pièce demain, je crois.
Enfin,
dans
les aujourd'hui, c'était.
Aujourd'hui, c'était, voilà.
Est-ce que je peux en parler de toutes petites secondes du site?
Absolument.
Parce que je travaille avec Erwan Defachel, qui est mon webmaster sur le site. Et c'est lui qui a eu l'idée en se disant, mais c'est peut-être un peu dommage d'utiliser simplement le principe d'élimination de ces jeux de télé-réalité. Et si on allait plus loin, donc moi, j'y connais pas grand-chose en ordinateur. Je suis un peu plus calé là depuis un an, depuis que je me penche là-dessus. Mais on s'est dit, allons-y, on va essayer de mettre des caméras à l'intérieur du studio qui seront branchées pendant 3 heures et puis il y aura une prise directe sur les répétitions. Il y avait un confessionnal, on a pris vraiment toutes les règles, on a utilisé mon énorme cahier là sur Starac 5. Il y avait un confessionnal pour que les danseurs puissent parler un peu plus de l'intimité d'un danseur. Moi je suis un ancien danseur et j'aime terriblement les interprètes et je trouve qu'ils en ont plus dans la tête que simplement ce qu'il y a dans leur corps comme ça et leur interprétation sur scène. Donc ça permettait aux gens de voir un peu aussi bien les doutes que les énormes joies sur simplement voilà, je voulais faire passer telle émotion, j'y suis arrivé, Cyril était content de cette impro là, on a bien travaillé ensemble, etc., etc. Et puis encore une fois, pour voir leur source d'inspiration, il y avait 8 semaines de répétition normale pour 8 danseurs et ils avaient chacun une caméra entre les mains pendant une semaine et ils filmaient leur source d'inspiration. Et sur le site, alors je veux bien donner l'adresse, www.lescariatides.com, lescariatides tout attaché avec un Y après le R, on peut voir tout ça, tout le processus d'une création. Les directs, c'est terminé depuis hier. Mais voilà, on peut voir toutes les sources d'inspiration, les dossiers, voir, relire un peu tout ce que
et
je viens de raconter.
Tous les soirs, tu mets pas le palmarès, les résultats de la soirée?
Non, au début, on y a pensé avec les danseurs et puis on trouve que c'est pas super sympa. En plus, on pense que ça peut être ça peut influencer certaines personnes qui viennent. Vous votez à l'inverse.
Non, mais vous,
même pour la carte postale,
vous revenez pour soutenir quelqu'un que vous avez défendu la première fois.
Même d'après les photos de Pids avec qui je travaille tout le temps, pour la carte postale, pour illustrer le spectacle, on a choisi justement une photo où on ne voyait pas de visage. Mais c'est une photo où il y a beaucoup de corps. C'est un spectacle au-delà de simplement sur cette angoisse-là, même si au début ils sont très habillés, c'est très sensuel, voire presque sexuel, les films hitchcockiens, mais dans quelque chose de très retenu. Donc on est allé dans ce côté-là. Il y a de la chair aussi, même si c'est très retenu. C'est pas du tout comme ma pièce précédente, Et si Gisèle, où là on était vraiment dans quelque chose de très cru.
D'accord. Eh bien, les rendez-vous, François?
Eh bien, les 18 à 19h, c'est un jeudi, 19 et 20 janvier à 20h, au Grand Bleu.
Merci beaucoup, François. Merci, Cyril, et à bientôt.
Merci, René. Ouais,
à bientôt, merci. Non, je voulais redire parce qu'il fait un travail formidable. C'est Benjamin Collier, la musique. Et puis Boris Monteil qui est en train de travailler sur les lumières tout seul au Grand Bleu. Je vais le rejoindre là après.
Voilà, qui assure la fin de cette émission dans quelques instants. Ce sera Qu'est-ce qui se passe à Villeneuve avec Emeline, avec Laure et leurs invités. Aujourd'hui, je pense qu'on parlera notamment de SL Culture. À la semaine prochaine.